toute la vie de Robert Durst était jonchée de cadavres. D'abord, il y a eu la mystérieuse disparition de sa femme Kathleen en 92. En 2000, quand la justice américaine rouvre le cas, la meilleure amie de cette dernière, témoin clé, est exécutée chez elle. Il réussit plus tard l'exploit d'être acquitté du meurtre de son voisin.
Bonsoir. Si la vie du milliardaire Robert Durst avait été un scénario destiné au cinéma, Hollywood l'aurait sans doute refusé. Trop invraisemblable, trop extraordinaire, trop démentiel pour être crédible et porté au grand écran. Le 17 mai prochain, Durst, dont la famille a fait bâtir bon nombre de gratte-ciel à New York, comparaîtra devant un tribunal accusé de meurtre. Dernier épisode d'un feuilleton criminel qui dure depuis 40 ans. 40 ans au cours desquels Durst, héritier fantasque et angoissant d'une puissante dynastie, a défrayé la chronique. La mystérieuse disparition de son épouse, l'exécution de sa meilleure amie et le meurtre barbare d'un de ses voisins. Malgré les accusations, les soupçons, Robert Durst, Bobby Durst, a toujours glissé entre les gouttes de la justice, à ce jour jamais condamné, avant qu'il ne se trahisse lui-même. Là aussi, le scénario est spectaculaire, nous allons le voir. Après avoir été piégé par son micro lors d'une émission télé, c'est ce destin hors norme, celui de Robert Durst, que nous avons choisi de raconter ce soir avec nos invités. Nous verrons si le milliardaire diabolique va continuer à échapper à la justice.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, le cas de Robert Durst, le milliardaire fantasque, sera jugé pour meurtre dans 2 mois. 40 ans que l'ère du soupçon pèse sur lui. À l'hiver 1982, son nom apparaît pour la première fois dans un dossier de police. Le vendredi 5 février 1982, un petit homme au physique sec et au regard sévère se présente au commissariat de la 20e section de Manhattan à New York. Il s'appelle Robert Durst. Il a alors 38 ans. Il vient signaler la disparition de son épouse Kathleen, nom de jeune fille McCormack, 29 ans, cheveux châtains, 1m65 pour 55 kilos. Ils sont mariés depuis 9 ans. L'homme parle calmement, presque détaché. Aucune inquiétude ou excitation n'est palpable. Robert Durst raconte avoir vu Cathy pour la dernière fois il y a 5 jours. C'était à South Salem, une petite ville au nord de New York où le couple possède une maison de campagne. Ce dimanche 31 janvier, Cathy aurait passé l'après-midi chez une amie, Gilberte Najami, qui habite à 45 minutes de chez eux. Elle aurait ensuite rejoint la maison de campagne. Durst dit avoir dîné avec elle et s'être disputé pour des broutilles. Il aurait ensuite amené Cathy jusqu'à la petite gare de Katona. Elle aurait pris le train de 21h17 pour rejoindre New York, 1h30 de trajet. Il dit lui avoir téléphoné pour savoir si elle était bien arrivée. Mais il ne sait plus bien d'où il a passé ce coup de fil. La maison de campagne, un restaurant ou... Non, cette fois, il se souvient, une cabine téléphonique, cabine isolée, difficile d'accès à cause de la neige et de la boue. S'il était dans ce coin perdu, c'est qu'il promenait là son chien Igor, le husky. Robert Durst explique que s'il a attendu 5 jours pour signaler la disparition de sa femme, c'est qu'il a avec elle des rapports distants. Elle a sa vie, inscrite en 4e année de médecine, il a la sienne. Il soupçonne Cathy d'être un peu trop portée sur la bouteille, de prendre de la cocaïne et même d'avoir un amant. Le couple dispose de 2 appartements à Manhattan et ne manque de rien, il faut dire que ce Robert Durst, qui ne paye pas de mine, est l'un des hommes les plus riches de la ville, l'un des 4 enfants et héritier potentiel du bâtisseur Seymour Durst, une dynastie aussi célèbre dans le bâtiment que la famille Trump. La Durst Organization a érigé à Manhattan bon nombre de buildings colossaux et de gratte-ciel. Ils en possèdent plus d'une centaine et en tirent de confortables loyers. Malgré sa fortune colossale, Robert Durst est toujours vêtu de vestes usées jusqu'à la corde, roule dans une voiture sans âge, on le dit rongé par l'avarice et d'un caractère imprévisible, voire violent. Mais pour l'instant, la police ne montre aucun empressement à retrouver Cathy. 18 ans vont ainsi s'écouler sans que Robert Durst ne soit réellement inquiété. Pas de preuves contre le milliardaire. La justice considère que l'épouse malheureuse a sans doute pris le large. Un témoignage tardif et inattendu va relancer l'enquête. Au mois de novembre 1999, un délinquant sexuel bien connu téléphone au détective Joseph Becerra de la police de l'État de New York, comté de Westchester. Il lui parle de la disparition de Cathy Durst il y a une vingtaine d'années. Il dit avoir appris par l'ancienne femme de ménage du couple que celle-ci aurait été tuée et enterrée dans un bois du Connecticut. Son mari, Robert Durst, serait l'assassin. Le délinquant, en bon informateur, donne des détails. Le détective Becerra est intrigué. Il se fait alors communiquer le dossier et se retrouve confronté à une ribambelle de points d'interrogation. Il apprend que 24 heures avant la déclaration de la disparition, une femme a signalé l'absence de Cathy, Gilberte Najami, l'amie chez qui elle avait passé l'après-midi. Il n'y a pas eu de suite, mais cette alerte a peut-être décidé le mari à se manifester. Najami a raconté à l'époque que Robert Durst avait coupé les vivres à Cathy, qu'il était violent. Le dimanche de la disparition, il l'aurait appelée pour qu'elle le rejoigne dardard. L'épouse aurait dit alors à son amie, s'il m'arrive quoi que ce soit, Bobby sera le responsable. Joseph Becerra note qu'à l'époque, Durst a bien failli être inculpé pour le meurtre de son épouse, mais le procureur s'y était opposé, pas de preuves. Dossier classé en décembre 1982. Malgré ce classement judiciaire et l'ancienneté des faits, le détective Joseph Becerra va convaincre la justice de rouvrir l'enquête sur la disparition. Mais pas question d'alerter Robert Durst. Becerra s'aperçoit que l'emploi du temps de Durst au soir de la disparition est incohérent. Un témoin qui certifie avoir vu Cathy dans l'appartement de New York le 31 janvier 82 au soir avoue qu'il s'est trompé. Il apparaît encore que quelques jours après la disparition, la femme de ménage du couple avait découvert une tache de sang, élément négligé à l'époque. Becerra est alors convaincu que Durst détestait sa femme et qu'il l'a tuée dans la maison de South Salem, empochant sa part d'héritage. Il aurait enterré son corps dans une forêt du New Jersey. La police du comté de Westchester entreprend des fouilles. Le détective et son équipe réentendent les témoins. Parmi eux, ils attendent beaucoup du témoignage de la meilleure amie de l'épouse, Suzanne Berman, une journaliste installée en Californie. Elle était au courant de beaucoup de secrets et accepte de tout déballer. Mais l'audition n'aura pas lieu. Le 23 décembre 2000, Berman est retrouvée morte, abattue d'une balle dans la tête dans sa maison de Benedict Canyon à Los Angeles. Elle-même fille d'un puissant gangster, elle préparait un livre sur la mafia. La police locale parle alors d'un règlement de compte. Robert Durst a lui quitté New York avec un confortable paquet de dollars. Il a des appartements un peu partout dans le pays. Il circule pour se faire oublier et désormais pour échapper à l'enquête sur la disparition. Durst va refaire surface au détour d'un crime atroce. Robert Durst est à l'autre bout du pays alors que l'enquête sur la mystérieuse disparition de sa femme se poursuit à New York. Investigation qui pourrait brutalement se rapprocher de lui et l'envoyer devant un tribunal, même si le détective Becerra n'y croit plus vraiment. L'assassinat de la femme qui était le témoin numéro 1, Suzanne Berman, une intime du couple Durst, est un coup dur. Sans elle, difficile de faire inculper Durst. Drôle de hasard, l'héritier milliardaire était bien à Los Angeles, quand Berman a été tué. Il lui a même fait deux versements de 25 000 dollars. En dépit de ces coïncidences, il n'a pas été entendu sur ce crime imputé à la mafia ou un petit ami jaloux. Décidément, Durst a le don d'échapper à la curiosité. Il s'en sort bien. Il ne fait aucun faux pas. La chance est avec lui. Mais la chance, ça tourne. Dans la soirée du 30 septembre 2001, le torse d'un homme est retrouvé échoué sur une rive de la baie de Galveston, au Texas. Les plongeurs récupèrent ensuite les bras et les jambes enfouis dans trois sacs plastiques. La tête reste absente. Dans un des sacs, les policiers découvrent un journal avec le nom de l'abonné et une adresse, Maurice Black, 2213 avenue K à Galveston. Sur place, les enquêteurs établissent que Maurice Black, 71 ans, est bien la victime atrocement dépecée. Il est présenté comme un homme irascible, mauvais voisin. Dans les poubelles de cette grosse maison coloniale délabrée, un pistolet et la facture d'un opticien au nom de Robert Durst. Ce Durst n'habite pourtant pas là. La victime n'a qu'une voisine, une certaine Dorothy Seiner, une femme handicapée qui vit dans une maigre pension et porte un chignon gris. Elle est absente. Chez elle, on découvre des traces de sang et une cassette VHS consacrée à une émission sur la vie de Cathy Durst. Cette femme, qui est présentée comme muette, n'est en fait que Robert Durst en personne, sourcils épilés et crâne rasé sous sa perruque. Depuis un an, il s'habille en femme pour se faire oublier. Durst est interpellé, il s'acquitte d'une caution de 300 000 dollars, puis repart en cavale, arrêté 45 jours plus tard et cette fois incarcéré pour le meurtre et le dépeçage du retraité. Deux ans plus tard, il comparaît devant un tribunal du Texas. Il reconnaît la mort de son voisin, mais jure que ce décès était accidentel. Il indique s'être disputé avec la victime qui le menaçait avec une arme. Les deux hommes ont roulé par terre et le coup est parti. Durst raconte qu'il était persuadé que la police ne le croirait pas. Il a donc essayé de faire disparaître le corps. Il a passé une nuit à le découper à la scie. Les avocats du milliardaire plaident l'irresponsabilité. Ils indiquent que leur client souffre d'une forme d'autisme qui l'a empêché d'avoir conscience de ce qu'il faisait. Et contre toute attente, Durst est acquitté. Peu importe que le jugement fasse scandale, c'est libre qu'il ressort du tribunal. Robert Durst paraît désormais totalement hors de portée de la police et de la justice américaine. Pas assez de preuves pour l'impliquer dans la disparition de son épouse et pas d'indices suffisants pour l'inquiéter dans l'exécution du témoin numéro 1, Suzanne Berman. Pour le moment, en tout cas. Après son acquittement surprise au Texas, Robert Durst endosse avec un plaisir à peine dissimulé son habit de personnage sombre et inquiétant. Un homme qui aurait commis les pires forfaits mais que la justice n'a jamais réussi à coincer. Hormis la mort du retraité Maurice Black, un accident, il a toujours nié toute implication dans la disparition de sa femme et l'assassinat de la meilleure amie de celle-ci, Suzanne Berman. Durst rejoint ainsi la galerie des célébrités du crime américain sans jamais avoir été condamné. Il présente un casier judiciaire vierge. Un film inspiré de son histoire, Love and Secrets, sort en 2010. Durst a alors 67 ans et il accepte le tournage d'une mini-série qui retracerait son parcours. Il se livre sans retenue lors des interviews. Autant dire que le visage qu'il présente est glacial, celui d'un homme arrogant et sûr de lui. Il n'hésite pas à déclarer qu'il a menti à la police à plusieurs reprises. Personne ne dit jamais toute la vérité, martèle-t-il, sans savoir que sa franchise, effrontée, va le perdre. Les enquêteurs qui travaillent sur ce documentaire, baptisé « The Jinx », en quelque sorte celui qui porte malheur, mènent une réelle enquête. Ils interrogent des témoins et retrouvent des indices. Ils s'aperçoivent ainsi que l'écriture d'une lettre signée Durst, adressée à Suzanne Berman quelques mois avant sa mort, est similaire à celle d'un mot anonyme adressé à la police pour indiquer qu'une femme, en l'occurrence Suzanne Berman, venait d'être assassinée. Dans les deux cas, la même faute d'orthographe apparaît, Beverly avec un « e » au lieu de Beverly sans « e ». Robert Durst est confronté aux deux lettres lors du tournage. Il est mal à l'aise, il se rend aux toilettes alors que son micro est toujours branché et se parle à lui-même. « There it is, you're caught. Kill them all, of course. » Traduction, il avait raison en parlant du réalisateur. « J'ai eu tort. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Je les ai tous tués, bien sûr. » Déclaration en aparté qui ne sera découverte que bien plus tard par les réalisateurs. Le 14 mars 2015, sur la foi de ses paroles perdues, Robert Durst est arrêté dans un hôtel de la Nouvelle-Orléans. Il est cette fois inculpé du meurtre de Suzanne Berman, emprisonné. Libération sous caution rejetée. Il n'échappera pas à un procès. Et on va le voir au cours du procès, puisque Robert Durst va être jugé. Il a effectivement prévu une ligne de défense solide et espère bien s'en tirer une nouvelle fois. Tout va dépendre du visage qu'il va montrer devant les jurés. Un être fantasque et désaxé, ou tout au contraire un tueur de sang-froid. Le procès de Robert Durst devait se tenir au mois de mars 2020. Mais la crise sanitaire a bouleversé le programme. Il est prévu qu'il comparaisse donc à partir du 17 mai 2021 devant le tribunal de criminel de Los Angeles. Il aura alors 78 ans. Durst est accusé d'avoir tué Suzanne Berman, la meilleure amie de sa femme disparue. Il l'aurait exécutée d'une balle dans la tête pour l'empêcher de parler. Ses avocats, David Chesnoff et Dick DeGuerin, celui qui l'avait fait acquitter au Texas, affirment que leur client n'a pas tué Robert Durst se serait rendu chez Suzanne Berman et l'aurait découverte morte. Il se serait alors affolé, aurait pris la fuite. Il aurait ensuite rédigé un mot à l'attention de la police afin que le corps puisse être retrouvé. Les avocats veulent démontrer que leur client est sincère. Un homme qui aurait été piégé par des journalistes peu scrupuleux. Le procureur estime que les paroles prononcées en marge du tournage de la mini-série sont une sorte de confession. Dans l'attente de son procès, Robert Durst est incarcéré dans l'aile médicale de la prison des Twin Towers à Los Angeles. Il serait dans un état d'une grande fragilité, opéré d'un cancer de l'œsophage et d'une tumeur au cerveau, selon ses avocats. Il serait encore addict à l'alcool, à la marijuana et aux méthamphétamines, se déplacerait avec difficulté et tremblerait de tout son corps. Serait-ce une nouvelle ruse pour apitoyer les jurés de la part d'un homme qui n'aura jamais cessé de porter des masques.